Le journal, votre journal, Winnie Claret, bonjour.
Bonjour.
À la une ce matin, la vie qui se fige en France. On ne sort plus de chez soi si ce n'est pas nécessaire. Le stade 3 de l'épidémie du coronavirus est donc déclaré. On vous explique ce que ça veut dire dans ce journal. Les autres titres, Winnie.
Conséquence de la phase 3, les bars, restaurants, cinémas ont dû fermer cette nuit. Coup de massue pour les commerçants qui l'ont appris dans la soirée. Reportage dans un établissement parisien avant la fermeture. Malgré le confinement, les Français sont appelés à voter aujourd'hui. Le premier tour des élections municipales est maintenu. On fait le point sur le fonctionnement de ce scrutin. Votre invité, Eric, à partir de 8h20.
Mes invités, nos invités, ils seront deux ce matin. Anne-Claude Crémieux, elle est professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis de Paris, et le professeur Frédéric Adnet. Il est chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et il est président du SAMU de Seine-Saint-Denis également.
Le coronavirus qui s'immisce dans les prisons. Premier cas détecté hier au centre pénitentiaire de Fresnes. L'inquiétude monte parmi les surveillants qui demandent plus de matériel pour se protéger. Et puis l'Europe, épicentre de la pandémie face au repli des États sur leurs frontières. Quel est le risque ? Réponse en fin de journal.
France Inter. Les Français ont sous-estimé le rôle qu'ils jouaient pour lutter contre le coronavirus.
Voilà le message du gouvernement hier soir. Édouard Philippe a appelé à plus de discipline dans l'application des mesures de confinement. Terminer les apéros en terrasse et les soirées cinéma, c'est urgent, a martelé le Premier ministre. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement. La France est donc passée au stade 3 de l'épidémie. Qu'est-ce que ça implique, Sophie Becherel ?
Désormais, les déplacements doivent être limités au strict minimum, les rassemblements sont interdits, plus de sorties, les commerces ferment, hormis les pharmacies, les commerces alimentaires, les tabacs ou les banques. Le télétravail doit être généralisé, on ne visite plus les personnes âgées, on ne leur confie pas les enfants, bref, on reste confiné chez soi. Cette stratégie dite de distanciation sociale vise à casser l'épidémie. Ce n'est pas le virus qui se déplace, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler, a rappelé le directeur général de la santé. Et c'est parce que désormais, l'afflux de cas va être massif, que tout le système de santé est mobilisé. Public ou privé, les hôpitaux et les cliniques ont tous reporté les opérations non urgentes. Partout, les équipes cherchent à libérer des lits en réanimation pour accueillir les cas graves. Des cas qui vont mathématiquement augmenter avec l'expansion rapide de l'épidémie. Déjà 4500 répertoriés, dont 7% en soins intensifs. Le stade 3, c'est aussi la mobilisation des étudiants en médecine, des médecins à la retraite. Les cas modérés, enfin, sont pris en charge à partir de maintenant par les médecins de ville qui sont toujours en attente des masques de la réserve de l'État.
Sophie Becherel, les commerces non indispensables ferment leurs portes, donc jusqu'à nouvel ordre. Juste après l'annonce d'Edouard Philippe, les commerçants visés ont vivement réagi, indignés pour la plupart de l'apprendre à quelques heures de la fermeture. Reportage au Lafon, restaurant dans le centre de Paris où la mesure a du mal à passer, Mathilde Dehumy.
Le serveur passe au milieu des tables, prévenir ses clients. Le restaurant fermera 2 heures plus tôt que prévu. Tommy, le gérant, accuse le coup.
Ils auraient pu au moins nous laisser la fin de la soirée pour pouvoir finir en beauté la dernière journée, quoi. C'est relativement chaud parce qu'on a de la marchandise. Mes produits qui sont ouverts, comme mes bouteilles de vin qu'on a, qui sont déjà entamées. Il faut voir après ce qu'ils nous disent, nos assurances, comment ça va marcher.
Autour des tables, on trinque au dernier verre.
Ah bah, il est très bon, mais on sait qu'on ne va pas en boire beaucoup plus.
Une fermeture à la dernière minute qui plombe un peu la soirée de Victoire, Claire, Nathan et Pierre-Louis. Ils ont entre 23 et 25 ans.
Je trouve ça un peu effrayant de se dire qu'à partir de ce soir, tout va fermer, qu'on va devoir être confiné.
On comprend très bien. Après, voilà, c'est plus pour le restaurateur en particulier celui-là, bah, il ferme à minuit, lui c'est du chiffre d'affaires en moins, enfin, c'est contraignant pour tout le monde, mais eux c'est un boulot derrière, ils travaillent et ça peut mettre en péril aussi leur activité si ça dure.
On a l'impression qu'il se passe quelque chose de très grave, mais qu'en même temps rien n'est grave, donc on sait pas trop comment réagir.
On n'a pas envie de sombrer dans la paranoïa non plus, et après on respecte totalement le couvre-feu et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est des mesures qui sont utiles.
Je suis hyper partagée entre être affolée et prendre du recul et se dire que voilà, c'est pas non plus la fin du monde.
Des amis conscients de la nécessité de s'isoler socialement et qui espère surtout que ça ne durera pas longtemps.
Le reportage de Mathilde Dehimi. On reste à la maison, donc, on le savait déjà d'ailleurs pour les enfants. Les établissements scolaires sont fermés partout en France dès demain et au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a aussi annoncé hier que les colonies et l'accueil périscolaire et extrascolaire seraient annulés pendant les vacances.
Et le passage au stade 3 ne remet pas en cause les élections municipales.
Le premier tour aura bien lieu aujourd'hui. Les bureaux de vote ouvrent dans une heure, à peu près à 8 heures partout en France. Le conseil scientifique estime que la tenue du scrutin est possible à condition de respecter les consignes de distance notamment et la priorité aux personnes âgées et fragiles. Avant de vous rendre au bureau de vote, on vous donne ce matin le mode d'emploi de ce scrutin assez complexe, Élodie Forêt.
Un mode d'emploi différent selon la taille de la commune. À moins de 1000 habitants, les électeurs votent pour des candidats qui se présentent seuls ou par liste. Ils peuvent rayer des noms et les suffrages sont comptabilisés individuellement. Au premier tour, les candidats qui obtiennent la majorité absolue avec au moins un quart des voix des électeurs inscrits entrent au conseil municipal. Pour les sièges restants, un second tour est organisé. Dans les communes de 1000 habitants et plus, là, la liste qui obtient une majorité absolue au premier tour obtient la moitié des sièges au conseil. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant fait plus de 5%. Si aucune liste n'est majoritaire, seules celles qui ont atteint le seuil de 10% peuvent se présenter au second tour. Trois exceptions à ces règles, Paris, Lyon et Marseille, où l'élection se fait par secteur. À noter que depuis 2014, les conseillers communautaires sont élus le même jour sur le même bulletin.
Une soirée spéciale municipale sur France Inter, présentée par Claire Servageant, aujourd'hui avec Thomas Legrand et Yael Goz, à partir de 19h. Les premiers résultats et estimations dès 20h. C'est le premier cas testé positif en prison. Il s'agit d'un détenu de 74 ans au centre pénitentiaire de Fresnes, en Ile-de-France. Des mesures ont été prises pour le personnel et d'autres détenus suspectés d'être contaminés ont été placés en cellules individuelles. Mais les syndicats pénitentiaires tirent la sonnette d'alarme. Ils redoutent une pénurie de masques et de gants à court terme, Emmanuel Leclerc.
Le septuagénaire était arrivé à Fresnes le 8 mars dernier. Il toussait déjà, ont confié des surveillants. Il avait été aussitôt placé à l'isolement, confiné, au vu de son état de santé. Il a fini par être transporté à l'hôpital, où il a été testé positif au coronavirus. Jean-Christophe Petit est le délégué syndical UFAP-UNSA.
Les personnels qui devaient rentrer en contact avec lui devaient porter un masque. Et ça, c'est un protocole que nous avons en place, même en cas de tuberculose et tout. Dès qu'on a une suspicion, le personnel est toujours douté de moyens de protection. Donc, les personnels, forcément, ils sont inquiétés parce que les personnels aussi ont des familles.
Au sein de l'administration pénitentiaire, on ne cache pas la priorité de faire acheminer rapidement des gants pour les palpations et des masques face au nombre de suspicions de cas de coronavirus qui se multiplient ces jours-ci partout en France, dans les prisons. Agnès Thibault-Lecuivre est la porte-parole au ministère de la Justice.
Sur les masques, c'est une problématique évidemment qui tient particulièrement à cœur à l'ensemble du personnel et évidemment c'est une problématique que le ministère de la Justice porte en interministériel. S'agissant précisément de l'établissement pénitentiaire de Fresnes, il y a des masques actuellement.
Et voilà le reportage d'Emmanuel Leclerc pour France Inter. Le coronavirus qui met à l'épreuve les populations, leur gouvernement et une certaine idée de l'Europe. Une Europe ouverte. Avec la fermeture des frontières décidée par plusieurs États membres pour se protéger de la pandémie, l'espace Schengen qui abolit les frontières entre 26 pays européens perd de sa substance, Louise Baudet.
De longues files d'attente au col du Brenner. Le retour des guérites et des gardes-frontières, c'était il y a 4 jours entre l'Autriche et l'Italie. Première frontière à se refermer depuis le Danemark, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie ont suivi. Grand retour des frontières nationales et peut-être début de la fin de l'Europe telle qu'on la connaît. Une Europe de la libre circulation des biens et des personnes au sein d'un espace Schengen qui ne connaissait plus de passeport. 26 pays européens acquis à la règle du laissez-passer qui a tout de même connu des exceptions ces dernières années. Menaces terroristes, pressions migratoires, des contrôles ont été rétablis, notamment entre la France et l'Italie. Des pays ont cédé à la tentation du repli, notamment en Europe centrale et orientale. Mais jamais les États membres ne se sont à ce point claquemurés, laissant peu d'espoir aux tenants de l'ouverture qui, à Paris ou Bruxelles, exhorte les Européens à se coordonner, prêchant dans le vide d'une coopération pas toujours compréhensible pour les populations à qui il est dans le même temps demandé de rester à la maison.
Louise Baudet, plus de 150 000 personnes ont déjà été contaminées dans le monde. Alors, comme vous le disiez, Louise, on se claque mur. Au Maroc, les liaisons aériennes sont désormais suspendues vers une trentaine de pays, notamment la France. Des milliers de touristes sont bloqués, dont des Français. Emmanuel Macron a assuré hier que de nouveaux vols étaient en cours d'organisation pour les rapatrier. Et puis, Donald Trump n'est pas porteur du coronavirus. Le président américain avait passé le test après avoir rencontré Jair Bolsonaro et une délégation brésilienne dont plusieurs membres. membres ont depuis été testés positifs. Côté sport, le roi est mort, vive le roi. Les mots de Martin Fourcade après sa victoire pour la dernière course de sa carrière. La légende du ski français a remporté la poursuite de Kontiolahti en Finlande hier. Le biathlète quintuple champion olympique prend sa retraite. Et puis l'ancienne championne de danse sur glace, Nathalie Péchala, élue nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace. Elle succède à Didier Gayagué, forcé de démissionner le mois dernier après le scandale de violences sexuelles dans le patinage français.